Je remercie les organisateurs, particulièrement Marie-Claire Villeval, de cette invitation. Je ne suis pas philosophe. Non, je ne suis pas économiste. Je suis très peu philosophe dans un sens, au sens vulgaire du terme également. Le cycle s'appelle, je crois, comment pensent les économistes ? Comment raisonnent les économistes ? D'accord. Donc ça peut justifier une intervention philosophique, effectivement. Alors voilà, le titre est un peu compliqué, parce que je vais vous parler d'une discipline dont je ne sais pas si le nom vous a encore atteint. Ça fait quand même quelques années qu'on a introduit ce champ multidisciplinaire. Donc comme le nom l'indique, entre neurosciences et économie. Et à l'intérieur de la neuroéconomie, donc, je vais vous parler du rôle des émotions dans la prise de décision économique, vous expliquant pourquoi, précisément sur le plan philosophique, ça pose un problème, pourquoi c'est intéressant d'étudier les émotions, de mettre des émotions dans les modèles de décision économique, et en vous relatant, en vous détaillant, en vous analysant quelques-unes des expériences célèbres, importantes, cruciales, des dernières années dans le champ de la neuroéconomie, qui mettent précisément donc en lumière le rôle des émotions dans la prise de décision. Donc les émotions ne sont pas un facteur qu'il faut écarter de la prise de décision comme nécessairement néfaste, mais qu'elles peuvent contribuer, et qu'elles contribuent de fait, par certains mécanismes qui leur correspondent, à des décisions optimales, d'où le titre. Alors, comme je viens de le dire, c'est une discipline récente, donc je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de la neuroéconomie, peut-être. C'est pas la, ça n'a pas encore atteint le public. Le cerveau, oui, il y a neuro dedans. Oui. ce qui a permis la naissance de cette discipline, si vous voulez. Donc, en gros, je vais parler de travaux des années 1990 du fameux neurologue Antonio Damasio. Je vais présenter les travaux d'Antonio Damasio des années 1990, avant, si vous voulez, que le mot, la science de la neuroéconomie apparaisse sous ce nom-là. On peut considérer que les travaux de Damasio préfigure ou annonce ou même font partie déjà de la neuroéconomie. Et ce qui a permis l'avènement de cette discipline, c'est le développement de techniques d'imagerie cérébrale, en particulier l'IRM fonctionnel, l'IRM, sachant que c'est apparu dans les hôpitaux au début des années 90, ça sert avant tout à la médecine, et que certains créneaux horaires de ces machines sont réservés aux chercheurs, mais plutôt en médecine, aux neurologues, aux neuroradiologues, aux psychiatres. Et secondairement, les économistes, certains économistes, ils ne sont pas nombreux, hein, ils ne sont pas tous dans le cas de Marie-Claire, à faire de l'économie expérimentale, y compris dans des conditions d'investigation du fonctionnement cérébral. C'est rare, donc c'est assez unique pour que ce soit souligné. En tout cas, depuis le développement récent de ces techniques, on peut mieux analyser effectivement les mécanismes qui se mettent en place lorsqu'un individu doit prendre une décision dans une situation donnée et par exemple dans une situation où il doit opérer un choix de type économique. Dans une situation telle que par exemple elle est modélisée dans les labos ou elle est déjà modélisée dans les laboratoires d'économie expérimentale. Donc on essaie de reproduire les conditions qu'on a dans les laboratoires d'économie expérimentale. Il va falloir faire certaines transfigurations quand même de l'expérience pour qu'elle soit adaptée à une investigation en imagerie cérébrale. Donc en gros, déjà, du point de vue, si vous voulez, de la méthode, ça suppose que l'économie... Alors ça suppose qu'on prenne la branche de l'économie dite expérimentale, donc c'est déjà une partie de l'économie qui s'intéresse au comportement des individus, au comportement réel des individus, en tout cas au comportement en laboratoire des individus, et qu'on puisse prendre des aspects suffisants de ces expériences en économie expérimentale pour les transposer en imagerie cérébrale et avoir testé les hypothèses qui intéressent à la fois les neuroscientifiques et les économistes. Donc ça fait beaucoup de conditions, ça fait beaucoup de travail, de méthodes très, très serrées, donc je vais vous présenter très rapidement en quoi ça consiste. Par exemple, un scanner, ben, je ne sais pas si vous avez vu peut-être le malheur de connaître ça, pour des raisons médicales, mais parfois on peut avoir le bonheur de le connaître pour des raisons purement scientifiques. Et donc, voilà, c'est un scanner par résonance magnétique fonctionnelle. Donc vous êtes dans un gros aimant, en fait, une puissance de 1,5 Tesla, 1,8 Tesla, 2 Tesla, 3 Tesla. Ça ne peut pas monter beaucoup plus haut parce que c'est dangereux au bout d'un moment. Mais là, c'est à ce niveau de magnétisme, c'est parfaitement bénin. Et imaginez-vous que vous êtes donc allongé, ou repensez que vous êtes allongé dans ce scanner. Et comme vous savez, aucun objet métallique ne peut rentrer là-dedans. Hein, pas de montre, pas de boucle d'oreille, donc pas de lunettes, pas d'ordinateur. Donc l'ordinateur sur lequel on projette les stimuli expérimentaux se trouve à l'extérieur de la salle. Et par un système très sophistiqué, généralement, enfin moi c'est ce que j'ai vu faire en tout cas, par un système très sophistiqué de miroir, l'écran de l'ordinateur est projeté, enfin réfléchi à l'intérieur du scanner, et le sujet va appuyer généralement dans cette position couchée sur deux boutons, un dans la main gauche, un dans la main droite, hein, et va répondre comme ça à une série de questions qui lui sont posées. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Donc imaginez que c'est ça, une expérience, enfin ça se passe comme ça, une expérience en neuroéconomie sous imagerie par résonance magnétique. Il y a d'autres techniques, notamment une technique plus ancienne, qui est l'électroencéphalographie, où là, vous portez un casque avec des électrodes. Donc, ce n'est pas des électrodes. Souvent, on a la représentation d'électrodes qui rentrent sous le crâne et qui vont, je ne sais pas, une torture. Non, ça existe. Hein. Ça existe dans le cas de traitement de maladies comme l'épilepsie ou de choses comme ça, qu'on stimule certaines zones en profondeur, certaines zones de cerveau. Mais c'est pas là, il s'agit... Ça, c'est absolument indolore. C'est simplement un casque et chacune, c'est un, comme un scalp, et chacun des capteurs mesure l'activité électrique à un point précis du cortex, en réalité. Ensuite, cette activité ondulatoire est reliée à un ordinateur qui décode le signal et qui montre à chacun des points quelle est la hauteur du signal. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes signaux qu'on capture, évidemment, dans ce cas-là, et dans le cas de l'IRM, ce sont des proxys, ce sont des éléments, des mesures qui nous donnent une indication de l'activité cérébrale et des aires du cerveau qui sont activées, des petites régions du cerveau qui sont activées. On connaît bien l'anatomie cérébrale, quand même, depuis au moins le 19e siècle, on la connaît pas mal du tout. Et... non seulement on connaît l'anatomie cérébrale, mais on connaît également les fonctions qui sont les fonctions cérébrales, les grandes fonctions, hein, comme la mémoire, le langage, ou des fonctions plus basiques, la respiration, etc. Mais là, ce qui va nous intéresser en économie, ça va être des fonctions de haut niveau, des fonctions cognitives de haut niveau, la décision, le raisonnement, éventuellement la mémoire, ou des émotions, donc pas forcément des fonctions cognitives au sens habituel du terme, mais également des émotions, dont on sait à peu près... à quels circuits neuronaux elles correspondent dans l'activité cérébrale. Et donc, on va observer toutes ces choses-là sous des tâches de décision économique telles que je vous ai montré, avec différents outils d'investigation. Alors, on n'est pas obligé de prendre des outils d'imagerie cérébrale pour faire de la neuroéconomie. Là, j'ai présenté simplement deux techniques majeures d'imagerie cérébrale. Il y en a d'autres, hein. Ce ne sont pas les seules. Mais on n'est pas obligé d'avoir recours à de l'imagerie cérébrale principalement pour faire de la neuroéconomie. La neuroéconomie, on peut la définir comme la corrélation entre un comportement économique observable, une décision dans une situation économique intéressante, et une mesure physiologique. Ou une corrélation avec éventuellement un déficit cérébral qui amène à un trouble comportemental. Donc par exemple, utiliser des patients cérébro-lésés, dont on connaît par ailleurs quelles lésions ils auraient, ils ont, et leur faire faire des tâches d'économie expérimentale appartient à la neuroéconomie. L'essentiel, c'est d'avoir cette corrélation entre un état, une observation du fonctionnement cérébral de l'individu, qu'il soit un individu sain ou un individu pas malsain, hein, c'est pas ce que je veux dire, un patient cérébro-lésé ou un patient également en psychiatrie. Peut-être que je ferai quelques digressions à la fin sur pourquoi certaines conditions psychiatriques sont importantes pour bien comprendre certains aspects de la théorie des jeux, par exemple, ou de la théorie de la décision. Donc vous voyez, c'est la corrélation entre un diagnostic ou une observation du fonctionnement cérébral de l'individu, ou plus généralement, pour dire physiologique de l'individu, dans la mesure où le fonctionnement physiologique est aussi un marqueur indirect du fonctionnement cérébral. Par exemple, une mesure très simple, le temps de réaction. Si je mets plus ou moins longtemps à prendre telle ou telle décision, là, je n'ai pas d'observation directe de mon cerveau. C'est simplement une mesure comportementale du temps de réaction dans la décision. Mais cette mesure, on sait la décomposer, plus ou moins bien, selon les contextes, et l'associer à des processus cognitifs cérébraux qui sont mis en œuvre dans l'action. Donc, en fait, il nous suffit d'avoir une mesure qu'on puisse corréler à un fonctionnement cérébral. Vous voyez, je deviens de plus en plus minimaliste sur ma technologie. Et puis, un comportement économique digne d'intérêt pour l'économiste. Évidemment, ça a été connu, la neuroéconomie, parce qu'on a mis aussi ces moyens importants d'imagerie cérébrale en œuvre, et aussi parce qu'ils sont précis et féconds, et qu'ils nous amènent à des découvertes et à des observations nombreuses et intéressantes. Alors, je définis maintenant, après cette petite introduction, un peu mieux, j'essaye, enfin, pas tellement mieux, je répète ce que je viens de dire, hein, en réalité, mais c'est pour vraiment faire comprendre la chose. Donc, ce qu'on appelle la neuroéconomie depuis quelques années, presque une dizaine d'années, se situe donc au croisement de l'économie expérimentale, qui s'applique notamment par des jeux expérimentaux à isoler les paramètres d'une décision, que ce soit une décision d'investissement, d'achat, de prise de risque, de consommation, et puis des neurosciences dans un sens très large. Donc, le point commun, c'est l'étude du comportement humain, et de croiser trois disciplines, vous voyez. L'économie, dont on pense traditionnellement qu'elle est formelle, axiomatique, et assez globale, elle ne rentre pas dans les détails du comportement, normalement. La psychologie, qui est plus intuitive, plus empirique, plus locale, et les neurosciences, avec des paradigmes importants derrière. Évidemment, les neurosciences appartiennent à la biologie, et particulièrement, ce qui m'intéresse un certain nombre de neuroéconomistes, si vous voulez, c'est que le type d'observation qu'on va privilégier, à mon avis, je vais y revenir là-dessus, notamment au sujet des émotions, doit avoir un ancrage dans des hypothèses de type évolutionnaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là, essayer de comprendre pourquoi telle capacité émotionnelle, j'ai beaucoup parlé des émotions, à partir de maintenant, je vais parler des émotions, donc pourquoi tel type d'émotion, par exemple le dégoût, on va voir ça, par exemple la haine, la colère, le ressentiment, etc. Pourquoi toutes ces émotions, là j'ai pris des émotions sociales, par exemple, ont été sélectionnées ? Pourquoi les mécanismes neuronaux physiologiques qui sous-tendent certaines émotions, notre panoplie émotionnelle, notre spectre émotionnel, pourquoi ces émotions ont-elles été sélectionnées par l'évolution ? Quel rôle ça joue ? Et quel rôle ça joue encore dans un contexte social, économique, qui est très différent du contexte dans lequel elles sont initialement apparues ? C'est pour ça que je précise que les neurosciences, la partie des neurosciences qui va nous intéresser est une partie des neurosciences qui met en œuvre certains outils d'imagerie cérébrale, comme le font les neurosciences, bien sûr, mais surtout qui, du point de vue théorique, est ancrée dans une perspective évolutionnaire qui va permettre peut-être de formuler des hypothèses, du coup, intéressantes pour la psychologie et pour l'économie, et de faire ce croisement interdisciplinaire qui nous intéresse dans l'étude du comportement humain, des comportements économiques en particulier. Donc j'espère que j'ai été à peu près clair sur mon introduction. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le détail... C'est comme si je sautais déjà à la conclusion, mais c'est pas tout à fait ça quand même. Est-ce que ça apportait des choses ? Parce que je sais que déjà vous vous demandez, bon d'accord, c'est sympa, mais est-ce que ça apporte des choses à l'économie ? Parce que j'ai compris que le cycle de l'année prochaine portait sur les banques centrales et des choses hautement plus, comment dire, politiquement cruciales que ce que je suis en train de faire, peut-être. Mais quel a été jusqu'ici l'apport de la neuroéconomie ? Alors moi, je suis, donc vous avez compris, philosophe de formation, donc j'ai plutôt privilégié une réponse philosophique que politique ou pratique, même si bon, on peut envisager des prolongements pratiques à la neuroéconomie, bien sûr. Donc comme je l'ai dit, et comme on va le voir, les premiers travaux datent des années 90, avec, comme on va le voir très précisément après, la découverte de mécanismes cérébraux qui permet d'expliquer des comportements opposés à ce que pouvait prédire la théorie économique classique. Donc déjà, à l'intérieur de la science économique, ça joue un rôle, comme l'a joué l'économie comportementale, comme l'a joué la psychologie économique, comme l'a joué ensuite l'économie expérimentale. C'est vraiment dans le prolongement de ces mutations internes à la science économique elle-même, et ça devient une mutation encore à l'intérieur de la science économique elle-même. Ça permet peut-être de remettre en cause, c'est pas sûr, mais on peut se poser ça, certaines prédictions, disons, ou du moins ce qu'on voyait comme des prédictions naïves, peut-être, de la théorie économique classique. Il faut être prudent sur ce point-là. Sur le plan philosophique, là, je peux me permettre d'être un tout petit peu moins prudent, parce que je suis un peu plus sûr de ce que je dis. Le principal apport de la neuroéconomie consiste à redéfinir des critères de notre rationalité, ce qu'on appelle en philosophie la rationalité, et notamment en mettant en lumière, c'est le sujet de mon exposé d'aujourd'hui, les mécanismes émotionnels qui semblent indispensables à toute bonne prise de décision. Alors je vais vous donner assez vite, donc ça c'était juste parce qu'il y avait une petite animation, voilà, un exemple de remise en cause, vous voyez si vous voulez, si on prend un postulat naïf concernant le fameux Je ne sais pas si on l'a jamais rencontré. Ce n'est pas comme l'Homo sapiens sapiens ou l'Homo erectus. Hein. C'est l'Homo economicus classique. C'est un mythe. Il n'y a pas de fossiles, à mon avis, de l'Homo economicus. Ou alors on est tous des fossiles, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette idée qu'un individu rationnel est un individu qui est porté essentiellement sur la maximisation de son intérêt, son utilité personnelle. Alors, réponse, mais non, mais là, il y a des réactions très vigoureuses. Là-dessus. Mais non, c'est faux. Moi, on n'est pas tous intéressés par la maximisation de son utilité personnelle. On peut être altruiste, on peut ne pas chercher à maximiser son intérêt personnel sans forcément être altruiste. Il y a plein de situations dans lesquelles on n'est pas obsédé par la maximisation de son utilité personnelle. Est-ce que c'est suffisant pour critiquer le paradigme classique ? Je ne crois pas. Mais globalement, on aura tendance à dire que ce principe de l'économie classique est faux parce que, par exemple, nous sommes prêts à des sacrifices pour établir des normes sociales. Alors, est-ce que c'est si simple ? Je vais commencer par une expérience très célèbre de deux importants économistes expérimentaux, Fair et Gachter, dans un papier déjà ancien dans Nature, en 2002, qui est un jeu de coopération. Alors, je ne détaille pas le jeu pour l'instant. Imaginez que c'est simplement des individus qui doivent coopérer entre eux à un bien public, c'est-à-dire ils doivent prendre la décision individuelle de mettre une certaine somme d'argent dont ils disposent, mettons 10 euros, de choisir sur les 10 euros une certaine somme d'argent qu'ils doivent mettre. Je pense que Marie-Claire Vival vous a déjà décrit pas mal ces jeux-là et d'autres intervenants aussi, ce type de jeu, de décider de contribuer au bien public, de mettre ensemble une partie de leur somme d'argent et de garder l'autre. Évidemment, plus ils contribuent, plus le bien public va croître. Imaginez qu'il y a un facteur qui multiplie ce bien une fois qu'il est semé et ensuite qu'il est redistribué équitablement. Donc, quelle est la stratégie rationnelle au sens du postulat de rationalité classique de maximisation de son intérêt individuel ? C'est de mettre le moins possible pour chaque joueur en espérant que les autres mettent le plus possible. Comme ça, il garde son argent au départ et puis la division équitable se fait et il récolte également le bien des autres, au passage, une partie du bien des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il a intérêt à... C'est comme vous avez intérêt à ce que tout le monde paye vos impôts, les impôts, mais individuellement, vaut mieux pas, quoi. Comme ça, vous bénéficiez à la fois des services publics générés par l'impôt, mais vous n'avez pas forcément contribué. Donc on est dans cette situation-là. Et effectivement, quand on est dans cette situation-là et que ça se passe comme ça, vous voyez, il suffit qu'au début, les gens coopèrent, environ en moyenne de 10 euros, si vous voulez, là, on va dire ça, 10 euros. On joue un coup, deux coups, trois coups, six coups, comme ça. Puis il suffit que tout le monde n'a pas coopéré de manière optimale pour que les gens se rendent compte que c'est peut-être qu'ils sont peut-être en train de se faire gruger un petit peu. Donc ils vont moins coopérer. Même les coopérateurs, au départ, vont se mettre à moins coopérer. Et la coopération va décroître. Donc au départ, je suis prêt à coopérer au bien public. Et puis finalement, dans la répétition de ce jeu, qu'est-ce qu'on dit alors ? Est-ce que ce qui se passe, c'est que je suis en train de devenir de plus en plus rationnel ? Parce que je suis en train de maximiser, en un sens, vu les circonstances, mon intérêt individuel, d'une certaine manière, vu les circonstances. Alors, si on introduit une punition dans ce jeu-là, c'est-à-dire que si tout à coup l'identité des joueurs, parce que là, dans cette version, dans ces six premières périodes, l'identité des joueurs n'était pas connue par les autres. C'est-à-dire qu'on pouvait faire défection de manière solitaire. Je n'étais pas sous la vindicte populaire. Mais si l'identité des joueurs est révélée, et qu'en plus, les égoïstes, les cavaliers seuls, comme on les appelle, peuvent être punis par les autres joueurs, on va donc instaurer un machin dans ce jeu, une institution, pour parler poliment, qui sera la punition. On va punir les défecteurs. Alors là, la punition, ça marche. Tout à coup, on a besoin de cette contrainte extérieure. Alors, est-ce qu'on est moins rationnel dans le deuxième cas ? C'est compliqué, vous voyez, ces questions de rationalité. En tout cas, vous voyez ici la différence entre coopération avec et sans punition. Donc, on commence à comprendre peut-être pourquoi il y a certaines institutions, éventuellement. Alors, si vous voyez maintenant, vous pourriez vous dire, bon, bah d'accord, quand les gens sont punis, c'est bien. Parce que ça leur apprend qu'il faut bien se comporter en société. Ça leur apprend, je ne sais pas moi, la solidarité, le civisme, des choses comme ça, des valeurs de ce type-là. Alors très bien, on va les punir d'abord, et puis après on cesse de les punir, ben, le civisme, la solidarité, vous voyez, ça ne dure pas très longtemps. Donc il vaut mieux que cette institution soit durable, parce que là, effectivement, ils coopèrent pendant les six premières périodes, et puis après, vous arrêtez de les punir, vous arrêtez de révéler l'identité des non-coopératifs, des non-coopérateurs, et vous voyez qu'ils cessent de... Alors Quelles leçons on peut en tirer, à part des leçons très générales sur la place des institutions extérieures de contraintes sur la coopération? Parce qu'apparemment, spontanément, il suffit qu'il y ait un défecteur dans un jeu pour que tout le monde se mette à le devenir par la force des choses, et aussi parce que c'est rationnel de le devenir, en un certain sens, dans ce cas-là. Là, on n'est pas du tout dans la neuroéconomie, on est dans l'économie expérimentale et dans l'observation d'un comportement et puis du rôle éventuel d'une institution sur, l'établissement de la coopération. On va voir tout à l'heure qu'effectivement, il y a des mécanismes externes qui sont efficaces pour mettre en place la collaboration, la coopération entre les individus, mais que ces mécanismes externes, c'est ça qui va être très intéressant dans un moment, c'est que on les respecte, pas seulement parce que c'est une contrainte extérieure et qu'on craint la punition, mais parce qu'en fait, ces mécanismes externes ont été en quelque sorte, sont sous-tendus par un certain nombre d'émotions qui ont été sélectionnées par l'évolution et qui les rendent efficaces. Donc c'est à la fois des mécanismes externes au sens social, là c'est vraiment, on introduit une contrainte dans l'expérience, mais ça recoupe en réalité ce que j'appellerais des mécanismes internes émotionnels. Alors ça on va le voir tout à l'heure. Avant ça, je vais me poser une question plus générale. Vraiment, je m'aperçois en faisant ce talk, cet exposé, que j'ai une déformation philosophique terrible. Le titre « Raison et émotion », on se croirait dans un cours de terminale sur Descartes ou quelque chose comme ça. Quand nous prenons une décision, donc je vais à la fois parler de phénomènes sociaux, comme ceux dont je viens de parler, et puis de décisions plus individuelles, c'est-à-dire d'un conflit interne qu'on connaît tous, entre raison et émotion, alors qu'on retrouve parfois dans des décisions individuelles, mais qu'on retrouve aussi dans des décisions sociales, bien sûr. Quand nous prenons une décision, voilà comment je vois les choses de façon très simple. Le cerveau a le choix entre deux systèmes. Soit un système de réponse émotionnelle rapide, qui est implémenté dans ce qu'on appelle le système limbique, donc qui va effectivement donner une réponse instinctive, rapide, des problèmes en cours. Soit un système frontal, qui est celui de la rationalité. Mettons que ce soit ça l'image simple, voire simpliste, du cerveau. Généralement, les deux systèmes fonctionnent bien ensemble. Ils fonctionnent en parallèle, c'est-à-dire que les réponses émotionnelles ne sont pas toujours les meilleures réponses qu'on puisse fournir. Dans certains cas, elles sont complètement inappropriées. Dans certains cas, si tout à coup je me mettais à m'énerver comme ça parce que quelque chose m'aurait déplu, tout mon discours serait discrédité alors que ça n'a rien à voir. Donc je préfère contrôler mes émotions, c'est mieux. La plupart du temps, les deux systèmes fonctionnent en bonne intelligence. Parfois, des conflits entre rationalité et émotion se présentent, et c'est ces moments de conflit qui vont particulièrement intéresser les neuroéconomistes, et on va voir des exemples. Quand les deux systèmes ne cohabitent plus tout à fait en bonne intelligence. Quand vraiment des émotions apparaissent. Et alors, à quoi elles servent, ces émotions qui apparaissent? Est-ce qu'elles font dérailler le cours rationnel de mon action? Est-ce qu'elle réajuste le cours de mon action? C'est des questions comme ça que je vais poser. Alors, avant d'entrer dans des études neuroéconomiques récentes, je vais faire un petit peu de retour aux années 90 en présentant les études de Damasio, que vous connaissez sans doute. Là, par contre, j'imagine, c'est quelqu'un d'assez populaire. C'est un grand neuroscientifique américain qui, par ses expériences, l'expérience que je vais relater, a mis précisément en lumière ce dont je viens de parler de manière extrêmement précise, c'est-à-dire les rapports déjà entre décision rationnelle, émotion et, comme on va le voir aussi, conscience. Parce que chez Damasio, c'est un peu particulier, ça peut vous sembler étrange, l'émotion n'est pas forcément consciente. C'est étonnant parce que ce qu'on appelle l'émotion dans le langage courant, c'est un état saillant de la conscience, c'est une phénoménologie particulière, c'est particulièrement conscient, précisément. Or là, on est dans une théorie de l'émotion, et ça c'est très important pour comprendre la suite, où c'est avant tout un mécanisme corporel, puis cérébral, puis éventuellement conscient. Que finalement, la conscience émotionnelle, la phénoménologie émotionnelle, la colère telle qu'on la ressent, l'anxiété, ces types de conscience-là, ces états de conscience-là, sont finalement le sommet de l'iceberg de quelque chose qui se produit d'abord corporellement, physiologiquement. Si vous voulez, Damasio est un peu l'héritier d'une théorie d'un philosophe psychologue américain important du début du XXe siècle qui s'appelait William James. William James disait la phrase suivante, qui est restée célèbre. voilà, elle est célèbre, mais elle n'est pas encore arrivée à ma conscience, ça va venir. si je vois un ours, on est dans le Grand Nord, là, si je vois un ours arriver vers moi, j'ai peur de l'ours parce que je me suis mis à courir, et non pas je cours parce que j'ai peur de l'ours. Si vous voulez, c'est pas d'abord je vois un ours, ah, j'ai peur, et donc je cours comme dans les rêves, vous voyez, vous êtes bloqué là dans les rêves. Les rêves, vous voyez un ours, ou je ne sais pas si vous voyez beaucoup d'ours dans les rêves, enfin quelque chose qui vous fait peur. Et puis vous n'arrivez pas à courir, mais vous avez peur. Là, c'est le contraire. Dans les mécanismes éveillés, c'est je me mets à courir, le réflexe c'est de partir, parce que c'est déjà sur la base d'une émotion, et le fait de courir, c'est déjà la mise en branle de l'émotion. Et après, ça affleure à la conscience éventuellement sous la forme d'un sentiment bien distinctif qui est la frayeur. Et puis pareil pour toutes les autres émotions. Je me mets à rougir, à m'agiter. Non pas parce que je suis en colère, d'une certaine manière. D'une certaine manière, je suis en colère, mais je ressens la colère parce que je me suis mis à m'agiter, à rougir, etc. Donc la colère, c'est les deux choses, évidemment, c'est la chose tout entière. Donc vous avez cette théorie de l'émotion, ça va être très important pour comprendre le rôle de la conscience, parce que dans ce portrait du fossile inexistant, l'Homo economicus, dont je parlais tout à l'heure, il y a l'idée que non seulement il est rationnel au sens où il va pondérer tous ses choix, toutes les conséquences de ses choix, qui va les intégrer proprement, de manière bayésienne, avec un calcul des probabilités finement menées, et tout ça dans une parfaite conscience. Donc il a vraiment des grandes qualités cérébrales en permanence, à chaque fois qu'il prendra une décision. C'est vraiment une idéalisation extrême. Or là, on va vraiment affaiblir une des conditions majeures de la rationalité, à savoir la conscience. On peut être rationnel sans être complètement conscient, sur la base d'une émotion qui n'est même pas forcément ressentie pleinement, mais qui est un certain état du corps, dans une certaine situation. Vous voyez ? Donc on est en train de refonder les liens classiques, pour autant qu'ils aient vraiment existé dans la littérature, d'ailleurs, ça c'est une autre question, entre décision, émotion et conscience. Alors je vais repartir du cas célèbre de Phineas Gage que raconte Damasio. Phineas Gage, vous avez peut-être entendu parler pour ceux qui avaient lu justement, qui ont lu ce. Je ne sais plus comment on dit, moi, le français. Ceux qui parmi vous ont lu le livre célèbre de Damasio, L'erreur de Descartes, précisément, sur les rapports entre raison et émotion, vous avez pu lire le récit de la mésaventure de Phineas Gage, qui était un travailleur des chemins de fer dans les années 1840 au pays des ours, là-bas, et qui a pris cette barre de fer. Le crâne de Phineas a été traversé de cette manière, par une barre de fer, alors qu'il travaillait. Et donc, de cette manière-là, il a survécu à ça. Donc c'est assez intéressant. Non seulement il a survécu, mais en plus il est resté conscient un certain temps. Assez conscient pour monter dans la charrette, pour commencer à râler, en disant « bon, il faut se dépêcher », des trucs comme ça. Donc, peu de temps après, enfin, une fois qu'il s'était remis de sa convalescence, son médecin, ça sera la seule citation en anglais de mon exposé, son médecin a dit qu'il était, alors que c'était un individu travailleur, tout à fait ce qu'il y a de plus respectueux, etc., du cadre de travail, était devenu sujet à des crises, irrévérencieux, se laissant aller parfois aux plus grossières injures, insultes, jurons, devenant impulsif, ayant des capacités d'introspection appauvri, une prise de décision déficiente tant sur le plan social que financier, alors qu'il avait une vie plutôt normale jusque-là. Donc, les lésions ont particulièrement atteint le cortex orbitofrontal, dont je montre ici sa bilatéralité. C'est vrai, les aires du cerveau existent en double, le plus souvent, dans les deux hémisphères. Donc là, il peut y avoir des lésions de l'hémisphère du cortex orbitofrontal droite ou gauche, ou les deux. Alors, je vais vous faire une description un peu clinique de ce type de patient, car Damasio avait rencontré, en fait, au début de sa carrière, un autre patient qui s'appelait Elliot et qui présentait le même type de lésion qu'avait présenté historiquement Phineas Gage et qui avait des comportements qui correspondaient bizarrement, étrangement, assez bien à ceux qu'avait décrit le médecin de Phineas Gage au XIXe siècle. Donc du coup, Damasio a recherché des cohortes de patients de ce type-là et a étudié systématiquement leur comportement. Alors en procédant d'abord, évidemment comme on fait dans ce cas-là, à des évaluations de type clinique et qualitatif sur toutes sortes de tâches, d'interrogatoires, etc., de questionnaires. Et puis ensuite, c'est ce que je vais raconter, en mettant au point une expérience particulière, un protocole expérimental particulier qui est probablement la première expérience de neuroéconomie au sens où j'ai défini ce terme, c'est-à-dire comme un mixte d'investigations cliniques, neuroscientifiques et de tâches de décision et d'optimisation des gains donc dans un jeu. Donc on va voir déjà la description clinique, puis ensuite le comportement sur une tâche spécifique, et on va voir du coup comment l'économie expérimentale ou comment une tâche assez fortement inspirée de la théorie de la décision expérimentale va avoir un grand rôle médical pour décrire exactement ce que sont ces patients et où se trouvent leurs déficits, et également va avoir un grand rôle philosophique et ensuite en théorie économique pour comprendre les rapports finement entre émotion et rationalité. Donc on va prendre le temps, dans la première partie maintenant qui commence réellement de mon exposé, de voir cet exemple historique de neuroéconomie ou préhistorique de neuroéconomie avant de passer à quelques tâches plus contemporaines et d'en tirer des conclusions. Alors donc vous avez une lésion, donc là la lésion a été provoquée accidentellement, mécaniquement par un objet particulier. Alors par l'effet de ce type de lésion, surtout quand elle est bilatérale, donc dans les deux hémisphères tels que je les ai montrés dans le slide précédent, du cortex préfrontal ventromédian, en l'occurrence le cortex orbitofrontal, qu'est-ce qu'on observe? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on observe d'abord que le fonctionnement cognitif de l'individu, ses capacités intellectuelles pures, sont intactes, que le fonctionnement cognitif demeure normal. Il n'est pas atteint dans ses facultés, dans son QI, dans ses capacités de raisonnement à froid, etc. Voilà, mémoire, langage, tout ça fonctionne encore parfaitement bien. En revanche, sur le plan comportemental, il commence à avoir une difficulté à planifier sa vie, à lier des amitiés nouvelles, à trouver des partenaires en affaires, en amour également, bien sûr, à éviter des pertes économiques, à garder un emploi stable, à maîtriser certaines impulsions, éviter les grossièretés de langage. Donc son comportement devient comme ça, très impulsif. Et c'est en contraste, naturellement, avec ce qui se passait chez le même sujet avant son accident, avant sa lésion. Donc pour Damasio, ça a suscité suggéré une étude plus approfondie. Et dans un des articles de synthèse qui s'appelle « Le patient ventromédian Béchara », donc l'équipe de Damasio, Béchara Damasio et Anna Damasio également, ont publié cet article en 2000, où il résume les points cliniques principaux qu'il faut retenir sur ce type de patient. Donc, comme je le disais, une intelligence normale, une compréhension du langage normal, une mémoire normale, acuité visuelle, auditive et tactile normale, préservée, et par rapport à la période qui a précédé la lésion, ce qui a changé, c'est que le processus de prise de décision est devenu long et très alambiqué, très tortueux. C'est-à-dire que vous aurez, sur une décision simple à prendre, maintenant vous allez peser toutes sortes d'alternatives. Ces alternatives vont être longuement entretenues et longuement pesées. C'est comme si tout à coup c'était un menu immense de restaurant qui se déroulait devant vous et vous ne savez plus quoi prendre. Je dis ça parce qu'il y a une expérience récente qui a montré qu'on décidait, c'est assez trivial, mais dès qu'on donnait plus de choix, tout à coup la décision devenait presque impossible pour certains patients. Notamment les trop grandes cartes de restaurant, finalement, finit par prendre l'entrée et puis c'est tout, on s'en va. Donc, il vaut mieux faire des cartes de restaurant courtes. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais vous voyez, là, c'est comme si ça devenait comme ça tout le temps. Les choix devenaient multipliés spontanément. Et quand les choix sont finalement pris après cette longue période tortueuse et laborieuse, eh bien, ils sont sous-optimaux. Ils sont désavantageux pour le sujet. Qui plus est, aucune leçon n'est tirée des expériences passées et des erreurs passées. Donc, le patient va persister à faire les mêmes choix nuisibles tout le temps. C'est-à-dire que non seulement il met du temps à décider, mais il met du temps finalement pour toujours décider la même chose et que cette chose est parfaitement nuisible pour lui. Donc pourquoi? Alors on continue sur cette description clinique un peu plus précise du patient. Et comme on va le voir, les différences les plus frappantes vont concerner une certaine épreuve que je vais présenter juste après, qui va être un test qu'on appelle le test de l'Iowa ou l'Iowa Gambling Test, dont je vais vous décrire exactement comment ça marche. Alors, autre point intéressant qui m'intéresse beaucoup et qui va être très important pour nous, c'est les émotions, donc. Alors, les patients ventromédians de Damasio, n'éprouve plus, au sens de William James que j'ai décrit, n'éprouve plus ces états, non plus ces états corporels qui affleurent ensuite à la conscience et qu'on appelle proprement, à proprement parler, des émotions, dans ce type d'approche des émotions. Alors on va les soumettre à un test de neuropsychologie classique, c'est un test extrêmement désagréable, évidemment je n'ai pas reproduit les images parce que je pense que vous m'auriez lynché ou vous m'auriez hué, ce sont des tests d'images extrêmement choquantes, donc on réserve à des cas cliniques rares, de mutilations, vous voyez, ce genre de scènes terribles, mutilations, blessures horribles, scènes de carnage, donc des choses particulièrement dégoûtantes à voir, qui mettent extrêmement mal à l'aise et qui vous plongent très rapidement dans un état émotionnel très négatif. Et on observe que chez ces patients, il y a un manque de réaction vis-à-vis de ces images choquantes par rapport à des témoins normaux qui sont portés volontaires pour la tâche, bien sûr. Donc, je ne vous ai pas soumis involontairement à cette tâche-là. En revanche, l'identification du contenu des images et la mémorisation de ces contenus, c'est normal. C'est-à-dire qu'ils sont capables de décrire ce qui se passe sur la photo. Ils n'ont pas de réaction interne physiologique à ces images. C'est-à-dire que quand on voit ces choses-là, ou quand on est en état émotionnel, il y a ce qu'on appelle, ce que Damasio a appelé, des marqueurs somatiques de l'émotion. Des marqueurs somatiques, c'est-à-dire que des états corporels. Ouais, rien que d'en parler, j'ai les mains qui deviennent moites, par exemple. Ou la pupille qui se dilate, ou la peau qui transpire, vous voyez ? Donc il y a toutes sortes de marqueurs somatiques de l'émotion, et Damasio va utiliser comme méthode de détection de l'émotion le taux de variation dans la conduction électrique de la peau selon qu'elle est plus ou moins humide, ce qu'on appelle la skin conductance response, la réponse cutanée de conduction électrique, et aussi le rythme cardiaque, qui bien sûr est un marqueur de l'émotion. Donc on va mesurer les états physiologiques, hein, toujours dans cette théorie jamesienne que l'émotion part du corps, remonte vers le cerveau pour schématiser et affleure éventuellement la conscience. Donc là, vous n'avez pas cette réaction interne. Quand bien même, alors, les sujets vont quand même identifier clairement le contenu des images et vont même aller jusqu'à dire « Ah oui, c'est horrible !» Mais ils disent « C'est horrible à froid !» C'est comme ils voient une scène de carnage, ils disent « C'est horrible !» mais ils ne ressentent pas l'horreur de la scène. Alors, ils ne sont pas dépourvus de toute émotion, précisément dans le sens de ce que je viens de dire, c'est vraiment minimal, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire « Oui, là, quand même, c'est... » Mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas pleinement la sensation d'une émotion. Ils ne sont pas incapables d'apprendre, ça on a vu que leur faculté cognitive n'était pas atteinte. Ils ne sont pas incapables de juger dans l'abstrait qu'une situation, une image, un fantasme, etc., horrible, devrait provoquer en eux des émotions, mais cette émotion ne se produit pas. Donc on va dire de ces patients qu'ils disent la chose juste, ils raisonnent correctement, ils pensent comme il faut. Mais ils ne font pas la chose juste. Alors ce qui est intéressant, là on est dans la neuropsychologie au sens où on étudie des patients cérébro-lésés et leur comportement. Donc, et on est content en neuropsychologie quand on a une dissociation. Là on a une dissociation entre dire la chose juste et ne pas faire la chose juste. Et quand on a une double dissociation, on est encore plus content. Effectivement, vous avez des patients dorsolatéraux et hippocampaux, c'est d'autres lésions cérébrales qui font exactement l'inverse. Donc ça nous renseigne beaucoup sur les mécanismes quand on a des cas qui montrent des inversions, des contrastes, des doubles contrastes. Donc Brenda Milner, qui est une autre très grande neuropsychologue avant Damasio, avait montré sur ces patients-là, sur les mêmes tests, hein, sur les mêmes images, des patients qui étaient physiologiquement marqués, qui avaient tous les marqueurs de l'émotion sur ces mêmes images, mais qui n'étaient pas capables de verbaliser leur émotion. Donc on a une double dissociation intéressante sur le plan neuropsychologique. Alors ils disent la chose juste au sens... Bah, ça veut dire que c'est une façon de parler, hein. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils devraient ressentir une émotion, ils disent que l'image est horrible, si vous voulez, mais ils n'ont pas ce qui signale proprement l'état dans lequel ils prétendent se trouver. Ils ne réagissent pas au sens qu'ils n'ont pas le marqueur somatique de l'émotion, ils n'ont pas tous les marqueurs, l'état corporel dans lequel on est habituellement, où un sujet contrôle est plongé. Donc vous remarquez que j'ai mis ces termes entre guillemets volontairement, hein, pour faire des contrastes rhétoriques. Ils disent la chose juste, mais ils ne font pas la chose juste. Et on va voir que tout à l'heure, précisément, non seulement ils ne sont pas dans l'état corporel habituel, on va dire approprié à la situation, ce qui va les empêcher d'agir correctement, précisément, sur la tâche. Ils n'ont pas l'état physiologique de l'émotion. Or, dans la théorie que défend Damasio de l'émotion, et qui est un vieil héritage psychophilosophique sur ce qu'est une émotion, On ne peut pas dire que tu ressens réellement l'émotion si tu ne fais que la verbaliser et que tu n'es pas, que tu n'as pas tous les mécanismes qui précèdent en principe cette verbalisation. Alors voilà le jeu, je vais vous montrer le stimulus dans, juste après ça, je pense. C'est simplement pour vous le décrire d'abord et pour vous le mettre en tête, et puis après vous allez le revoir sous une forme plus didactique, donc vous n'êtes pas obligé de tout mémoriser. Ça va être un jeu de cartes. En réalité, il va y avoir 4 jeux de cartes devant vous, c'est donc la fameuse tâche de Damasio, l'Iowa Gambling Task. Le sujet devra retourner une carte à la fois, donc on va nommer les jeux A, B, C, D, 4 jeux de cartes. Et sur ces cartes, il y aura des montants monétaires, soit des gains, soit des pertes. Et donc, le sujet aura une banque, comme dans un Monopoly ou un jeu comme ça. Il aura 2 000 $. Non, là, c'est 200 $, pardon. 200 $, enfin, peu importe. Et puis, soit il va recevoir de l'argent en retournant une carte, soit il va en perdre. Chaque carte peut être un gain ou une perte. Donc, le jeu va continuer ainsi. Le jeu va s'arrêter quand l'expérimentateur le décidera. En fait, ça sera au bout de 100 coups, mais là, le sujet ne le sait pas au départ. Et puis, si le sujet a perdu toute sa cave, toute sa dotation initiale au cours du jeu, il a le droit d'arrêter ou de redemander à la banque une nouvelle dotation. Alors, voilà comment ça se présente. Donc là, je vais vous décrire précisément les choses. Donc, je n'ai pas de laser, mais j'essaie de... Vous avez deux tas de cartes A et B qui peuvent présenter des gains. Et quand ils présentent un gain, c'est 100 $. Et par contre, toutes les 10 cartes, en jouant ce jeu, vous aurez aussi des gains de perte. Vous allez perdre, tous les 10 cartes, 1 250 $. Donc ce qui fait une perte nette, toutes les 10 cartes, telles que c'est paramétrisé dans le jeu, de 250 $ pour l'état A et B. Alors, si vous regardez maintenant l'état C et D, vous verrez que les gains par carte sont plus faibles. C'est 50 $ au lieu de 100 $, donc c'est moins attractif au départ. En revanche, la perte nette, la perte toutes les 10 cartes est seulement de 250 $ et non plus de 1 250. Donc cette fois-ci, ça devient un tas à terme avantageux puisque toutes les 10 cartes, vous pouvez remporter 250 $. Donc vous avez ici des gains, deux tas de cartes A et B qui sont apparemment attractifs au départ parce qu'ils présentent des gains plus élevés, mais qui s'avèrent plus nuisibles à terme. Si vous comparez à C et D, c'est moins attractif au départ, mais c'est plus rentable à terme. Donc la question, c'est quand on vous demande de retourner des cartes A, B, C ou D, une à la fois et 100 fois successivement, au bout d'un moment, n'importe qui d'entre vous qui n'est pas votre médian cérébro-lésé, je suppose qu'il n'y en a pas dans la salle. Il n'y en a pas dans la salle ? Non. Va très vite découvrir, en tout cas, les tests le prouvent, va très vite découvrir que ça ne vaut pas la peine de rester sur A et B, et très tôt, je vais vous montrer les courbes dans un instant, très tôt, les gens se fixent sur l'état C et D parce qu'ils ont compris que c'était peut-être moins attractif au départ, mais que c'était ce qu'il fallait faire pour gagner de l'argent. Et les gens, dans ce jeu, ont envie de gagner de l'argent. Voilà. Donc, il faut choisir C et D. Au bout d'un moment, il faut avoir compris. Il faut choisir C et D pour gagner de l'argent. Et normalement, tout le monde le comprend. Alors dans ce jeu, on ne donne pas d'informations, hein. On ne dit pas évidemment à l'avance quels sont les bons jeux, quels sont les bons tas, quels sont les mauvais tas. On le laisse découvrir aux joueurs, qu'ils soient patients ou sujet contrôle. On leur dit simplement que ces jeux ne sont pas tous équivalents, et puis c'est tout, c'est à eux de se débrouiller. Donc le sujet doit découvrir la différence d'état en retournant les cartes successivement. Donc c'est une tâche qui impose un certain apprentissage, comme on appelle ça. Le sujet fait ce qu'il veut, il peut choisir à chaque instant une carte dans l'un des quelconques 4 jeux, il n'y a pas d'impossibilité, il y a suffisamment de cartes, surtout quand c'est sur ordinateur. Et le jeu, sans que le sujet le sache, on ne donne pas d'horizon temporel fixé à l'avance, c'est-à-dire qu'on laisse ça ouvert, justement, se termine toujours au bout de 100 cartes, et il ne le joue qu'une fois. Donc comme on l'a vu, les jeux A et B contiennent des cartes à haut gain, mais aussi des cartes à haute perte, et les jeux C et D contiennent par contre des cartes à bas gain, mais aussi à basse perte. Et donc, l'expérimentateur, sans que le sujet le sache, bien sûr, a programmé les choses de telle manière qu'il est impossible de perdre toute sa dotation initiale en jouant uniquement les cartes C et D. Au contraire, on risque même de gagner un peu d'argent. Par contre, si l'on s'obstine à choisir les cartes A et B, si on n'a pas compris ou si on a envie de continuer à jouer avec A et B, ben là, il est certain qu'on perdra toute sa dotation avant d'avoir retourné 100 cartes. Et là, soit on arrête, soit on redemande de l'argent qu'on risque de perdre si on continue à jouer comme ça. Vous avez compris ? Donc, c'est un jeu très très simple. Très très simple. Alors, je vais vous montrer des courbes, mais je décris les choses comme ça pour que ce soit bien clair au départ. Les sujets, les témoins, les sujets contrôle, les sujets non cérébralisés, après avoir essayé un petit nombre de cartes A et B, c'est normal, c'est attractif, se concentrent sur les cartes C et D, et jusqu'à la fin de la séance, ils persistent avec les cartes C et D. Sauf, bien sûr, on retourne de temps en temps à A et B pour voir si ça n'a pas changé, pour voir si... Voilà, c'est normal. Mais c'est de moins en moins fréquent au fur et à mesure que le jeu avance. Et les sujets VM, c'est-à-dire ventre médian, s'obstinent à jouer les cartes A et B. Alors, est-ce qu'ils ont... La question que je pose maintenant, c'est est-ce que c'est parce que... Quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris? Ou est-ce que parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher? Vous voyez? En tout cas, quand leur dotation a été perdue, ils redemandent de l'argent, et puis ils continuent à perdre, ils perdent. C'est des perdeurs, des perdants compulsifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils perdent comme ça? Alors, ça, c'est des courbes très simples. Hein. Je n'ai pas de laser, mais vous allez voir. Ça, c'est en haut, c'est un sujet non cérébralisé, un sujet contrôle. Et là, vous voyez, c'est sur 100 périodes. Et en haut, là-haut, c'est quand ils vont jouer A et B. Donc, il y a 100 petits curseurs comme ça. Et en bas, c'est les bons tas, c'est C et D. Donc, A et B, je vous rappelle, c'est les mauvais tas, C et D, c'est les bons tas. Vous voyez que dans les 20 premiers coups, à peu près, c'est à peu près ça, généralement. Ils jouent souvent A et B et quelquefois C et D. Puis alors là, tout à coup, ça s'inverse, à part quelques rares incursions dans A et B, pour vérifier peut-être. Mais globalement, ils gagnent de l'argent en jouant comme ça. Là, c'est encore plus lisible. Là, c'est l'état A et B. C et D, ils se fixent là-dessus. Et là, c'est C et D, ils arrêtent de jouer ça. Et là, vous voyez, les patients, c'est pas clair ce qu'ils font. Ils continuent jusqu'au bout à jouer significativement l'état A et B. Donc c'est ce que je vous disais simplement avec des paroles, mais là ça se voit plus clairement. Les patients vont continuer à jouer les mauvais tas jusqu'au bout de la partie, et les sujets contrôle, globalement, ça c'est un sujet typique, c'est les moyennes ça, va jouer les bons tas assez vite au bout de 20 coups sur 100. Alors ça c'est les gains. Là, c'est zéro. Donc, un sujet sain, c'est ici. Un sujet contrôle, c'est ici. Va très vite passer au-dessus de la barre de zéro et va gagner de l'argent jusqu'au bout du jeu, tandis qu'un sujet ventre médian va jamais réussir à dépasser la barre zéro et va donc perdre de l'argent continuellement jusqu'au bout du jeu. Vous voyez, donc, c'est la performance monétaire progressive selon qu'on est impatient ou pas dans ce jeu-là. Alors, essayons maintenant d'arriver au point central de mon exposé, qui est de mettre en corrélation le comportement sur le jeu, selon qu'on est impatient ou un sujet sain. Ce qu'on vient de voir, c'est le comportement sur le jeu, selon qu'on est impatient ou un sujet sain. Et puis le fait d'avoir, ce qu'on racontait juste avant, cet état émotionnel, d'être dans cet état émotionnel corporel particulier. Donc là, on va corréler le choix de la bonne carte ou de la mauvaise carte, des bonnes cartes ou des mauvaises cartes, avec... l'activité d'un marqueur somatique particulier, c'est-à-dire la réaction, la skin conductance reaction, la réaction électrodermale, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. La réaction électrodermale, à savoir, donc, qui est considérée comme une mesure de l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Donc vous avez ici le choix, vous avez... Voilà, vous avez ici la mesure de la réaction cutanée. Selon, donc on est soit un sujet normal, soit un sujet ventre médian cérébralisé à gauche, à droite ou bilatéral. Rappelez-vous mon petit schéma du cerveau au départ. Et on va prendre cette mesure sur le bout des doigts, de l'état émotionnel, de ce marqueur somatique, qui est donc un indice de l'état émotionnel sur le bout des doigts, au moment où le sujet est en train de choisir sa carte. Selon qu'il est en train de choisir un tas désavantageux, A ou B, ou un tas avantageux, C ou D. Et vous voyez, pour le sujet sain, c'est assez mystérieux. Ça commence à devenir du Damasio et dans tout son mystère. On rentre dans les mystères Damasio maintenant, à savoir, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de choisir, et que je sais, est-ce que je sais? Je ne sais rien pour l'instant. Où je vais prendre, en quelque sorte, une mauvaise décision, je suis dans un état émotionnel sans en avoir clairement conscience. On va voir ensuite les phases de conscience qui vont évoluer. Et pour le moment, on n'a pas ça sur ce truc-là, mais on a déjà l'idée étrange qu'il va falloir comprendre, qu'au moment où je vais prendre une mauvaise décision, en gros, j'ai un marqueur somatique plus fort, je suis dans un état émotionnel plus fort que lorsque je vais prendre une bonne décision, c'est-à-dire que je vais choisir un bon tas dans le jeu. Rappelez-vous, j'ai 100 coups et Damasio mesure à chaque fois la réaction électrodermale au moment du choix et voit quand même une décorrélation significative. Selon que je prends une bonne décision, une mauvaise décision ou une bonne décision, quand je prends une mauvaise décision, je suis dans un état émotionnel, il y a comme un système d'alarme qui se met en place. C'est ça qu'on va voir. Et qui va donc servir de base à l'apprentissage de la bonne décision. Quand vous êtes un patient cérébro-lésé, les contrastes entre bonne, d'abord la réaction cutanée, la réaction électrodermale est fortement atténuée, surtout si vous avez une lésion à droite ou une lésion bilatérale. Et surtout, elle ne discrimine plus significativement entre bonne et mauvaise décision, pour autant qu'elle discrimine encore quelque chose. Vous voyez, dans les deux derniers cas, c'est plus vraiment sûr. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme ? La question est quand même, pourquoi j'appelle ça les mystères d'Amasio ? Parce que c'est quand même curieux qu'on ait des choses, des états corporels, qui soient des indicateurs du fait que je suis en train de prendre une bonne ou une mauvaise décision, sans avoir clairement conscience de ce que je fais. C'est quand même ça le message de d'Amasio, hein. Et sur sa tâche, c'est ça qu'il veut montrer. Alors, comment expliquer ce comportement, déjà ? Alors, déjà, comment expliquer que le sujet, avant de répondre à la question mystérieuse principale, ce que je vais faire, et je vais bientôt conclure sur Damasio, essayons déjà de comprendre ce qui ne va pas chez le sujet ventromédian. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire ? Est-ce que c'est un problème de compréhension ? Est-ce que c'est un problème de planification ? C'est-à-dire qu'il a du mal à voir au-delà de un coup, deux coups, trois coups, et alors 10 coups, il ne voit plus rien. Est-ce que c'est un problème de se souvenir de ce qu'il vient de faire ? Et donc, quand il recommence un choix, il a tout oublié et il faut tout reconsidérer. Que c'est un problème de mémoire de travail. Est-ce que c'est un problème du fait qu'il s'en fout ? Il ne donne aucune importance aux pertes, en réalité. Ça pourrait être ça aussi, chez certains joueurs. On ne sait pas. Est-ce que c'est ça, le phénomène ? Est-ce qu'il est incapable d'apprendre en général ? Est-ce qu'il est incapable de faire des estimations cognitives, de dire « Ah, si je fais ça, alors j'aurai telle conséquence ?» Ou est-ce qu'il n'arrive pas à développer ce que j'appelle une mémoire du futur, c'est-à-dire de se souvenir de faire quelque chose le moment venu en fonction des expériences passées ? Alors, c'est mon interprétation. Hein. Ces 6 questions peuvent se soulever. Il y en a qui sont exclus pour des raisons de contre-test et de contre-vérification. Par exemple, ça c'est exclu, on va voir, enfin, c'est a priori exclu par Damasio, c'est plus compliqué en réalité. Ça c'est exclu, ça c'est exclu. Ça c'est exclu également, en fait, il s'intéresse à gagner, il veut gagner. Ça c'est faux. Ça c'est compliqué. Et ça me paraît l'hypothèse la plus plausible. La manière dont je formule le problème, c'est de dire que le sujet ventromédian est incapable de mettre en relation ce qui se passe, ses attentes pour le futur et les critères qui devraient guider ses choix futurs. Plus exactement, il est capable de formuler certains critères, mais au moment de la mise en œuvre, ça disparaît. Donc il ne met pas en relation ses critères et l'action. Par ailleurs, ce qu'on a vu sur le dernier graphique que j'ai présenté sur la réaction cutanée corrélée au choix, on a vu que chez les patients, le signal d'alarme par l'émotion, le signal interne de danger, comme je l'appelle maintenant, voilà, je parle comme ça, parce que moi je vois les émotions comme des signaux, des alarmes et des alertes. C'est ma théorie. Donc le signal interne de danger est plus bas, et le choix des cartes dangereuses persiste au cours du temps. Tout ça, on l'a vu sur l'écho comportemental. Par contre, ça, on le contrôle par ailleurs. Je pourrais éventuellement vous raconter comment dans les questions si vous en avez sur ce sujet. Le sujet ventromédian comprend parfaitement ce qui lui arrive. Il sait qu'il est en train de perdre. Il comprend assez vite qu'il fait des mauvais choix. Et il désire gagner. Ça aussi, on l'a contrôlé. Il est même très désireux de gagner. Mais disons qu'il ne peut pas tirer, pour parler très simplement, il ne peut pas tirer des leçons de l'expérience qu'il est en train de vivre. Donc, Damasio formule cette hypothèse du marqueur somatique. Essayer de définir son rôle dans la prise de décision optimale en disant que c'est un signal interne de danger, présent ou attendu. C'est ça qui est curieux, c'est que c'est une anticipation du danger. L'émotion est une anticipation du danger. Et elle est un médiateur efficace dans la prise de décision, c'est ce qu'on voit sur les courbes comportementales. On peut aussi considérer l'état émotionnel dans lequel on est au moment d'une prise de décision comme quelque chose comme un biais intérieur qui s'engendre évidemment sur la base d'une répétition d'expériences similaires de punition et de récompense, et qui va infléchir normalement la décision dans un sens optimal, au sens où ce biais, cet état qui vient infléchir la décision, qui va orienter mon action de manière éventuellement inconsciente, va empêcher le sujet de prendre des décisions nuisibles avant que celle-ci ait atteint le seuil de la conscience, c'est ce que j'étais en train de dire. Privé de ce signal intérieur, le choix conscient n'est pas suffisamment alerté. C'est-à-dire que le choix peut être conscient, mais il n'est pas orienté par le mécanisme émotionnel. Alors pour Damasio, les sujets peuvent être conscients, lucides éventuellement sur leur échec, mais ça ne change rien à leur comportement parce qu'il n'y a pas ce marqueur qui vient orienter et donner, infléchir l'action. C'est une thèse vraiment étrange, curieuse sur les rapports entre émotion et décision. Sans émotion, et quand bien même on est lucide et rationnel en un certain sens, on n'est pas capable de prendre un cours d'action rationnel. Vous voyez que ça a beaucoup modifié si on s'en tient à cette conclusion telle quelle et si on l'adopte, ce qu'on n'est pas obligé de faire, ce que je ne fais pas forcément à 100% non plus par ailleurs, mais si on adopte cette thèse forte du message de Damasio, vous voyez qu'on a complètement renversé un certain message classique, habituel, sur la décorrélation entre rationalité et émotion. Au contraire, là, il n'y a même plus de rationalité, où ce qu'on appelait l'homo economicus, qui était capable de prendre des choix lucides, on l'a, d'une certaine manière. Mais sans les émotions, il devient complètement inefficace, pour résumer à outrance. Hein. Alors, je vous donne juste un dernier point important. Je vais vous expliquer ces tableaux-là, parce que c'est le point de la conscience. Or, c'est un point crucial. Dans Damasio, il y a le message que ces émotions peuvent, comme je l'ai répété plusieurs fois, mais là on va le voir précisément, que les états émotionnels peuvent infléchir le comportement des sujets dans un sens optimal. En leur absence, on ne peut pas infléchir le comportement dans un sens optimal. Et peuvent le faire sur une base non consciente. Et commencent à le faire d'ailleurs nécessairement sur une base non consciente pour lui. Alors regardez comment ça se lit, cette chose-là, si vous n'arrivez pas à le décoder parfaitement de là où vous êtes et par vous-même. Vous avez simplement le déroulement de l'expérience avec ici à gauche les sujets contrôle, donc non cérébralisés avec la réaction cutanée et là les réponses comportementales sur les choix qu'ils ont faits. Et vous avez ici sur la partie droite de l'écran les sujets ventromédians avec pareil les réactions électrodermales et puis leurs réponses comportementales. Et vous voyez une particularité, une différence, je ne sais pas si vous l'avez aperçu entre ces deux tableaux, c'est que là il y a 3 couleurs et là il y a 4 couleurs. Alors pourquoi ? Tous les 20 coups, rappelez-vous, il y a 100 périodes qui sont jouées, et tous les 15 ou 20 coups, je crois que c'est 20, Damasio soumet ses patients à un petit questionnaire, très simple, où il leur demande, alors qu'est-ce que vous pensez du jeu ? A, B, ça vous évoque quoi ? C, D, enfin une espèce de questionnaire qualitatif où il essaie, d'une façon d'ailleurs qui a été critiquée méthodologiquement, enfin il essaie à sa manière, et avec un certain résultat quand même, de mesurer la conscience qui évolue au cours du jeu qu'ont les sujets de la qualité des différents tas de cartes qui leur sont présentés. Sur la base d'un questionnaire, sur une mesure verbale, c'est ça qui a été critiqué méthodologiquement, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails de débat, je vais aller au point essentiel, qui est le suivant, qui est que les sujets contrôles avaient précisément une conscience de la qualité d'état au cours de l'expérience qui évoluait. Alors Damasio, alors là, vous excluez cette période parce que c'est une période d'entraînement, et vous rentrez dans ces 3 périodes-là. Dans les 20-25 premiers coups, je ne me souviens plus exactement de la frontière, mais peu importe en fait pour l'instant, parce que le point qui vous intéressait, c'est que les sujets n'avaient pas du tout d'intuition, bon, c'est les 20 premiers coups en fait, ou même pas, n'avaient pas réellement d'intuition de la valeur d'état. Donc, dans les 20 premiers coups, personne n'est capable de distinguer lesquels sont les bons tas, lesquels sont les mauvais tas. C'est trop court pour l'instant. Donc, c'est une période qu'il appelle pre-hunch, ça veut dire qu'on ne sait pas encore, on n'a pas d'idée. Mais il y a toute une période intermédiaire pour les sujets contrôle où ils commencent à découvrir la différence entre les tas. Ils commencent à comprendre que A et B sont des tas qui leur nuisent et que C et D sont des tas qui ne leur nuisent pas. Mais en fait, ils commencent à comprendre alors qu'ils ont déjà changé leur comportement. C'est ça qui est important. C'est qu'ils n'ont pas encore une conscience clair de ce qui se passe, mais ils ont déjà orienté leur comportement sur la base d'un marquage somatique qui est là depuis le début. Donc, si vous voulez, il y a d'abord le marquage somatique, il y a ensuite quelque chose qui affleure à la conscience, et il y a ensuite, ultimement, une ce qu'il appelle la période conceptuelle, une réalisation pleinement consciente et rationnelle, au sens classique, de ce qu'il faut faire. Mais ça vient après cette mise en place par l'émotion, puis par le comportement, et enfin, ultimement, au niveau de la conscience, ça affleure pleinement et clairement. Et précisément, c'est ce que vous n'avez pas chez les patients qui ne modifient jamais leur comportement dans un sens optimal parce qu'ils n'ont pas ce marquage schématique très clair. Et vous voyez que la phase hunch a complètement disparu. Ils n'arrivent pas à avoir cette phase progressive d'accès à la conscience. Donc c'est ça la grande différence entre les patients et les sujets contrôle, c'est que c'est les phases dans lesquelles on se trouve progressivement. Émotion, affleurement de la compréhension à la conscience, et puis pleine conscience. N'ayant pas cet affleurement à la conscience, parce qu'on n'a pas cette, c'est l'hypothèse de Damasio, ce marquage schématique, on passe à la période conceptuelle sans pouvoir modifier son comportement. Vous voyez ? Le mystère Damasio, il est là. Ce n'est pas le mystère Van Bulow, c'est le mystère Damasio. Donc, j'en reviens par des formations. J'ai exercé la philosophie pendant 10 ans dans cette maison, donc il m'en reste un tout petit peu quelque chose. Guido Meliora proboque et détériora sequor, un peu de métamorphose. Je vois les bonnes choses et je les approuve, mais par contre, je fais ce qu'il ne faut pas. Donc, c'est exactement ça. Une pleine rationalité, ça décrit chez Ovid les questions classiques de faiblesse de la volonté, de pourquoi je sais qu'il ne faut pas fumer et que je fume, vous voyez ces questions-là, d'acrasie, de faiblesse de la volonté, de suivre d'afficher des principes, mais de ne pas pouvoir les suivre aussi. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas, peut-être. Donc là, le sujet comprend parfaitement ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il a sa phase conceptuelle qui est bien établie comme les autres, mais par ses actions, il ne se conforme pas à ce jugement abstrait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette émotion, il n'y a pas un signal, un marqueur interne, un marqueur somatique. Et en l'absence de ce marqueur somatique, il n'y a pas d'intégration du jugement et de l'action. Donc on est dans un... Damasio a produit une extrêmement profonde, puissante, avec beaucoup d'expérience à l'appui, démonstration de la contribution des émotions à la rationalité, ce qui a lancé beaucoup de discussions qui ensuite ont eu une influence en économie, en philosophie, etc. Alors, je vais maintenant être plus rapide. C'était la préhistoire de la neuroéconomie. Et je vais être sur le plan de l'histoire, je vais être beaucoup plus rapide. Je vais présenter quelques exemples sur quelques points importants. 3